Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Bernard Tapie.
Bonjour Monsieur Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Comme d'habitude, il y a beaucoup de questions que l'on souhaite aborder avec vous. Il y a 25 ans, vous étiez élu député européen. Emmanuel Macron a fait un pari, celui d'imposer un combat entre progressistes et populistes dans nos élections européennes. C'est un pari risqué.
Il a fait ce pari-là, mais je crois que les dés sont complètement pipés par le fait qu'il y a un troisième larron, c'est une d'ailleurs, oui, qui elle fait un autre pari, qui en réalité trompe les électeurs. Car ça devrait être ça. Ça devrait être à l'intérieur des « on est contre l'Europe, on est carrément contre au point qu'on veut en sortir », où on est contre cette Europe-là, et là, dans cette Europe-là, avec changement, il y a deux tendances, hein, social-démocrate ou libérale. Elle fait le pari de faire croire aux gens, on reste dans l'Europe, mais on le change. Ça n'existe pas. Vous voyez, il faut que les gens sachent ça. C'est-à-dire, c'est un pari perdant.
Vous parlez de Marine Le Pen, est-ce que ça veut dire que notre président de la République, du coup, s'expose à une forme de vote sanction et qu'il en a pris la responsabilité? J'ai bien compris que vous nous parlez de Marine Le Pen, mais c'est lui le maître du jeu en ce moment quand même.
Bon, il est plus le maître du jeu parce que les acteurs ne sont pas encore complètement rentrés dans le jeu. Mais bientôt, on va avoir les plateaux de télévision avec, comme vous l'avez dit, ceux qui sont progressistes, ceux qui sont plutôt arc-boutés sur les valeurs anciennes.
Le Rassemblement National a rattrapé La République En Marche dans de nombreux sondages ces derniers temps.
Oui, mais c'est ce que je crains, c'est justement ce que j'essaie de vous dire. C'est que à un moment donné, vont se porter sur les listes du Front National, si ça continue, ceux qui ont envie de faire perdre M. Macron. Or, une élection européenne, ça conditionne l'état des Français dans l'Europe. C'est pas l'état de M. Macron par rapport à Mme Le Pen. Je veux dire, ça, c'est secondaire. Une élection présidentielle, il peut prendre ce risque-là. S'il s'est trompé, ben, il n'est pas élu.
Donc, le président de la République fait à vos yeux un pari risqué.
Vous appelez il à voter très risqué.
Vous appelez à voter contre Marine Le Pen ou je sais pas, ou pour La République En Marche, ou vous vous engagez dans cette campagne.
J'appelle les gens qui veulent sortir de l'Europe à choisir des listes qu'ils annoncent. Vous avez, je sais plus comment ils s'appellent, il y en a deux, hein. Il y a la chimio, c'est mauvais pour la mémoire, mais il y en a deux. Il y a La République En Marche. Comment s'appellent les deux qui sont complètement opposés? L'ancien du Front National.
Alors, Debout la France et les Patriotes de l'autre côté.
Bon, cela, c'est clair. On veut sortir de l'Europe. De l'autre côté, Mme Le Pen ne peut pas dire « Je veux être dans l'Europe, mais je vais les changer au point qu'on va remettre les frontières, par exemple. » Ça, c'est pas possible. Donc, elle trompe les gens. Il faut que ceux qui veulent qu'on remette des frontières, ben, ils aillent au bout de leur désir et qu'ils demandent la sortie de l'Europe.
Je retiens de ce que vous nous dites quand même, que vous trouvez que le président de la République prend un gros risque pour l'avenir de son quinquennat. On est d'accord pour l'exprimer comme ça ou
Il prend le risque et il faut absolument que ça n'arrive pas.
Il y a les échéances du pays.
De toutes les forces, il faut que ça n'arrive pas. Et vous savez, ça n'arrivera pas si on refuse l'idée que 60% des Français sont aujourd'hui prêt à ne pas aller voter. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Calvi? 60% des Français sont en train de dire on va pas y aller.
Comment on mobilise les électeurs, Bernard
Tapie?
En
leur disant la vérité, on est en danger, je vous assure qu'on est en danger. Moi, je suis plus concerné. Mais l'avenir de l'Europe, c'est l'avenir de la France. La France, c'est 5% du monde. Faut pas rêver. On n'est rien si on sort
de
l'Europe.
Donc il faut dramatiser cette échéance électorale d'une certaine façon.
Il faut pas la dramatiser. Faut la raconter telle que ça va être.
Il y a les échéances du pays et puis il y a les vôtres, Bernard Tapie. Celle du procès dont vous attendez le verdict le 9 juillet, le parquet a requis 5 ans de prison ferme. C'est énorme. Comment attendez-vous ça?
D'abord, je trouve qu'ils sont plus optimistes que mes médecins, qui m'en donnent pas tant, objectivement. Donc, je dirais que si je le prends avec recul, 5 ans, bon, si je fais 5 ans, ça sera déjà une bonne chose. Mais maintenant,
vous me répondez par l'humour, on est à quelques
jours. On est à quelques jours du jugement, ça vaut le coup d'attendre, quoi. 9 juillet, ça va pas être long.
Vous avez la trouille, j'emploie un terme simple pour évoquer quelque chose qui ne l'est pas, du verdict.
Eh ben, il sera ce qu'il sera. Voilà. Ça sera le 9 juillet.
toute cette affaire peut se résumer avec l'image d'un coffre-fort. Bernard Tapie, avec son avocat Maître Lantourne et son faux arbitre Pierre Estoupe, se fait ouvrir le coffre-fort. C'est en ces termes que l'un des procureurs...
Ça vous amuse encore pendant longtemps, là? Vous voulez quoi, qu'on refasse le procès?
Non, je vous fais remarquer qu'on a employé... que ce dont on vous accuse et le verdict...
Mais je m'en fous,
qui est attendu,
je m'en fous.
...est potentiellement terrible.
Mais dans la vie, il n'y a pas de potentiel, hein, vous voyez? Vous avez potentiellement un cancer, mais j'espère que vous ne l'avez pas. Voilà. Et bien moi, c'est la même chose. J'attends le 9 juillet. Ce que je note quand même, excusez-moi, c'est ceux qui étaient à l'audience, ils ne pensent plus sur cette affaire, ce qu'ils ont pensé pendant 5 ans en lisant les journaux. Voilà.
Vous venez de me dire « j'attends le 9 juillet ».
Oui.
Ça veut dire que vous, qui êtes un homme de combat, on ne peut pas vous le retirer, vous êtes en ce moment, pour la première fois, peut-être spectateur d'une décision.
Ah non, mais ça fait 25 ans.
Ça doit pas être facile à vivre.
Ça fait 25 ans que je suis spectateur des décisions et qui ne dépendent pas de ce que j'ai fait, mais de ce qu'on voudrait me faire faire. Parce que ça fait 25 ans que je suis sorti de mon tiroir en me mêlant de ce qui ne me regardait pas, notamment en étant député européen et en éliminant Michel Rocard. Vous voyez, parce que ça, c'était un crime.
Vous savez les propos qu'on lui prêtait?
Je non.
Je ne veux pas d'un Stavisky dans mon gouvernement. Bon, le président Mitterrand souhaitait que vous souhaitiez son ministre.
Comment? Je n'ai pas entendu.
Je ne veux pas d'un Stavisky dans mon gouvernement, aurait-il dit au moment où le président Mitterrand souhaitait que vous soyez son ministre.
Ah, oui, il aurait mieux fait de se taire.
Il aurait mieux fait de se taire.
Il aurait été président de la République derrière Mitterrand.
J'ai une dernière question à vous poser là-dessus. Elle marque sans doute votre vie et vos rapports à la fois avec le sport et avec les affaires. Et je pense d'ailleurs que c'est le procès qu'on vous a fait dans toute votre vie. Est-ce que l'honnêteté est une valeur pour vous, Bernard?
Énorme. Il n'y a pas d'autre valeur possible sans celle-là. Parce que ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'est le repère. Seulement, l'honnêteté... il faut qu'elle soit déterminée par des arbitres neutres. Ce n'est pas la morale qui doit déterminer si vous êtes honnête ou pas. Ce sont les faits, monsieur. Les faits. Mmh. Et pour l'instant, les faits, je les cherche encore.
Parmi vos soutiens indéfectibles, il y a bien sûr les supporters de l'Olympique de Marseille qui ne va pas bien en ce moment. Pas de Coupe d'Europe. Une défaite 3-0 dimanche à domicile, c'était face à Lyon. Vous avez un conseil à leur donner, amical?
Alors, je me garderai bien, parce que le football, c'est à la fois la gestion réelle du problème tel qu'on le connaît, et puis c'est le café du commerce.
Oui,
et j'évite de mettre mon petit doigt dans les affaires de l'OM, parce que, pour toutes les raisons que vous pouvez penser, tout ce que je dirais ne viendrait que ou compliquer la tâche de ceux qui ont la charge du club, ou, encore pire, de ne pas les aider.
Sauf que vous connaissez ce club mieux que quiconque.
Oui, je les adore. Et la ville, je l'adore.
Eux aussi, ils vous adorent, vous le savez. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui?
Pas que. Il y en a plein, vous savez, qui ont vibré à la victoire de l'OM. Vous savez pourquoi? Parce que Deschamps l'a rappelé, c'est elle qui a suggéré la victoire en Coupe du Monde quelques années après.
Bon, pas de conseil à M. Franck McCourt?
Sûrement pas.
Une orientation?
Sûrement pas.
Mais vous voulez plus du tout vous mêler de ces affaires-là?
Hein?
Vous voulez plus du tout vous occuper de football?
Ah ben, j'ai pas dit ça. Je dis qu'à l'heure actuelle, je veux pas d'avis sur ce sujet.
Alors, j'évoque l'Olympique de Marseille parce que c'est grâce à un homme dont le nom est réapparu ces dernières semaines que vous avez mis les pieds à Marseille et dans le football. Il s'appelle Frédéric Terrier.
Oui.
C'est l'ancien président de la Ligue de football professionnel. Et Emmanuel Macron vient de le nommer pour mener la mission de refonte de l'ENA. École normale d'administration. Un énarque pour réformer l'ENA, vous trouvez ça formidable?
Oui, extraordinaire. D'abord, extraordinaire d'avoir voulu le faire. C'est très courageux de la part de Macron, franchement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui voulaient le faire. Et deuxièmement, il est énarque, mais en même temps, il est baryton dans un groupe professionnel de chanteurs. Il est...
Ça ne suffit pas pour réformer l'ENA.
Attendez, il est l'ancien président de la Ligue de football. Quand il est rentré, les droits télé, c'était 200 millions par an. Quand il est ressorti 10 ans après, c'était 800 millions de droits télé par an. Monsieur Thirier est un homme qui, en même temps qu'il a fait l'ENA, grâce à son cerveau gauche, qui est celui de l'acquis, il a fait fonctionner son cerveau droit, qui est celui de la créativité, de l'imagination, etc. Quand on est en même temps énarque et que le soir on fait des concerts parce qu'on est un baryton ou qu'on fait... on montre qu'on n'est pas spécialement, uniquement... cultivé.
Je comprends que vous êtes un ami fidèle, mais excusez-moi, je trouve bizarre, par exemple, de demander à un gars de chez Monsanto de venir nettoyer les sols. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on demande à un énarque de venir réformer l'ENA, c'est-à-dire ce qu'il a...
Vous savez ce qu'on fait quand on veut des bons journalistes? On essaie de demander à un très bon journaliste comment on peut former des journalistes. Voilà. Parce que dans les journalistes, il y a des très bons qui savent à la fois être très créatifs et très cultivés, Et comme les gens qui sont à la tête du pays, les futurs hauts fonctionnaires, doivent avoir à la fois la culture et la créativité, c'est formidable qu'on nomme à la tête du mouvement pour le réformer un type qui a les deux.
Donc vous dites, Thiriet va réformer l'ENA. Donc,
ah oui, pas l'ENA, la formation des énarques, c'est pas pareil.
La formation des énarques. Je vous repose la question, donc je redemande à un ancien président de l'Olympique de Marseille s'il n'aurait quand même pas un petit conseil à donner à l'actuel président de l'Olympique de Marseille.
Le seul conseil, c'est de constater que dans le sport, il n'y a que le résultat qui compte. Est-ce que le résultat est satisfaisant? Non. On a la chance, monsieur.
Donc il faut changer.
Dans le sport, la chance qu'on a, c'est que le résultat, il est incontestable. Vous avez gagné 2-0. Voilà. C'est difficile dans beaucoup de professions de savoir lequel est le meilleur. On est d'accord? Qui est le meilleur journaliste d'RTL, monsieur Caluy? Alors, répondez-moi à cette question.
Le résultat justifie tout, Bernard Tapie. C'est ce qu'on peut comprendre dans ce que vous venez
mais
de nous dire.
Mais c'est pas ça, mais sans résultat, il n'y a rien qui est possible. Voilà, vous voyez? Hein, être perdant, ça n'a jamais stimulé les gens à avoir envie de faire la même chose que vous.
J'ai toujours pas compris si vous attendez le 9 juillet avec sérénité, en tout cas. Le 9 juillet, si vous l'attendez avec sérénité, je veux juste savoir comment va votre santé en ce moment, avant qu'on se sépare.
Écoutez, la vérité, c'est qu'elle va plutôt formidablement bien par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que je sais, ce que les autres vivent. J'ai une chance inouïe. C'est de vivre dans un environnement qui est très très positif pour supporter les maladies telles que le cancer. Et je peux vous dire que sans cet environnement-là, il n'y a pas de surhomme, et je ne serais pas dans l'état dans lequel je serais.
Merci beaucoup Bernard Tapie d'être venu ce matin sur RTL. Un autre
et
Marseillais...
Voter.